Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
De Michel Charron.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Croire à son option et s'y maintenir ». L'important, mes amis, ce n'est pas d'être du côté de la majorité, car celle-ci change d'avis fréquemment. Mais de croire en son option et de s'y maintenir malgré toute évidence d'erreur une fois qu'on l'a fondée dans l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est de croire en soi et de suivre la direction qu'on s'est donnée le plus tôt possible. Moi, je trouve que je suis un bon exemple. À l'âge de 10 ans, je tombe en amour avec la bande dessinée et je dédie ma vie. Je savais que j'allais dédier ma vie à la bande dessinée. Avec le temps, ça s'est élargi à l'art, la peinture, la musique, maintenant l'écriture. Mais toujours, j'ai gardé cette direction. Jamais j'ai renoncé à l'idée que j'allais être un artiste, même si encore aujourd'hui, à 40 ans, je ne suis pas reconnu par la majorité des gens. Je continue à écrire des livres, je continue à croire en moi-même, malgré l'évidence que ça ne fonctionne pas.
Mais... C'est utile et sage de ne pas suivre la majorité. Habituellement, quand la majorité s'en va dans une direction, moi aussi, je prends garde et puis j'essaie de voir quelle autre direction que je peux prendre. Parce que les moutons sont nombreux dans la vie. Et croire en soi pour prendre une option, c'est intéressant parce que je voulais justement t'amener, Nicolas, à définir un peu qu'est-ce que tu veux dire par option. Fait qu'option, ça pourrait être dans le cas de l'argument qu'on fait ici. C'est un choix. C'est pas c'est vraiment un choix.
Ben, opto, option vient du latin opto, qui veut dire je choisis. Mm-hmm. Veut dire j'opte pour quelque chose. Donc, oui, c'est pas dans le sens de choisir pour se diviser, mais c'est dans le c'est se choisir comme absolu. C'est-à-dire mm-hmm. se choisir soi en premier.
Décider de soi-même, en quelque sorte. Ouais.
Ça, c'est peut-être justement le cheminement le plus important. Parce qu'une fois que tu as fait ça, vraiment, le reste, c'est optionnel. Parce que c'est une question de jouer avec les formes, dans un sens. C'est pas juste vraiment... Une fois que tu as découvert que, tu sais, tout le monde, la majorité, dans ce cas-ci, je pourrais dire, pour faire un parallèle avec ce qu'on parle souvent, je dirais que la majorité poursuit Dieu, ce Dieu externe, là-bas, sur l'ombre de l'horizon. T'sais. Tandis qu'à un moment donné, quand tu te réveilles, tu t'aperçois que tu es Dieu. Et puis, il n'y a plus de recherche. Mais ça prend des fois un petit peu de bout de temps à faire cette recherche externe pour te réaliser que c'est toi. T'sais.
Au niveau relatif, on sait c'est que les gens changent beaucoup d'idées aujourd'hui. Ils sont comme des girouettes. Ils changent de carrière, ils changent de compagnon, de compagne. Les couples ne fonctionnent pas longtemps. Donc, il n'y a pas de permanence. Et c'est un gros problème, je trouve, dans notre société. C'est difficile d'être heureux quand tout est impermanent autour de nous.
Mais Nicolas, là, un point où je me sens interpellé tout de suite en début d'émission, c'est en lien avec ce que tu as dit dans ton introduction en parlant de toi. Tu parles de tes œuvres, que tu vois comme artiste et tout. Tu dis, mais même si cela ne fonctionne pas, moi je dirais autrement, je vois pas ça sous le même angle. C'est sûr que tu pourrais dire ça fonctionne si je suis la personne que tout le monde connaît au Québec, là, mais je pense que cela fonctionne puisque tu crées quelque chose. C'est peut-être sur ça qu'on peut mettre l'accent, mais aussi, qu'est-ce qui me venait aussi en réflexion avec tout ça? C'est que ta manière d'être toi-même n'est pas conventionnelle, comme c'est-à-dire que on pourrait sous-entendre que ce soit une réussite ou quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est parce qu'il est connu ou qu'il a une fortune. On peut avoir un style différent. Peut-être que notre œuvre peut se présenter d'une autre manière, pas toujours d'être tout le temps les histoires de à la Québécoise qui doivent générer des milliards ou des millions du moins. Mais c'est bon qu'il y ait une diversité de styles d'œuvre, une diversité de types d'auteurs.
Moi, je dirais que je n'ai pas le choix que de croire en mon option. Sinon, je nie une partie de moi-même. Et en niant une partie de moi-même, bien, je suis très malheureuse et ça peut même mener à la dépression. Je suis dans une période de ma vie où je suis pas très heureuse parce que je n'ai pas assez respecté mon option. Et je suis en remise en question justement pour essayer de mettre plus de place à mon option, essayer de respecter plus mon option qui était celui de devenir comédienne. Maintenant, il n'y a pas de place pour tout le monde. Je n'ai pas réussi à faire ma place. Je suis un peu amère, je l'avoue, mais il y a moyen quand même de réaliser, de se réaliser à travers différents moyens, comme par exemple des ateliers, comme par exemple continuer de faire de la figuration, même si c'est pas extraordinaire, continuer de chercher avec des gens qui vont me valoriser, qui vont me donner ma chance, continuer à croire en mon option, mais d'y travailler, d'aller dans ce sens-là.
C'est quelque chose que j'ai souvent vu chez des femmes qui ont eu des enfants. On dirait que la machine biologique s'éveille, puis là, la femme oublie complètement tous ses rêves. Moi, je regarde la majorité des femmes que je connais qui ont des enfants. Soudain, les enfants arrivent, tout part de côté, et c'est les enfants qui deviennent la priorité, même un point où ils ne parlent même plus d'elles-mêmes, elles n'existent plus qu'à travers leur enfant.
Oui, j'en ai eu quatre, et je leur ai transmis ma passion, mon désir, parce que j'ai quatre de mes enfants qui font aussi... qui passent des auditions aussi. Alors, ma passion a été forte parce que je leur ai transmis ça. Donc, c'est fort quand même l'option que j'ai choisie, malgré tout. Mais je continue à croire en mon option, oui.
Nous avons une sorte de sous-thème cinématographique, si on veut. Ça me fait penser à mes études. J'ai fait un certificat en études cinématographiques à l'université. Puis j'ai bien aimé découvrir le cinéma d'auteur que je ne connaissais pas avant de suivre cette formation-là. C'est sûr que c'était des cours que j'ai faits. C'était vraiment l'objectif premier, c'était de me faire plaisir puis de poursuivre des études. Donc, ça a été une approche, une expérience culturelle de premier ordre. Pour moi, puis donc une chose que j'ai retenue, que j'ai beaucoup aimé, à connaître le cinéma d'auteur, c'est pas justement, comme je disais tout à l'heure, un point de vue commercial à tout prix, les meilleurs box-office et tout. C'est l'objectif premier, c'est que l'auteur fait un film pour communiquer ce qui l'anime d'une part, mais on dit que le réalisateur fait un film pour se faire plaisir. Donc ce qui transparaît le plus, parce qu'il est à son écoute totalement, le réalisateur, celui qui a créé. C'est pas toujours le cinéaste, mais ça peut l'être. Mais c'est souvent, pour moi, c'est des films de génie. Et les grands critiques au cinéma qui analysent, qui évaluent les films d'auteur, souvent, ça devient des films classés excellents, de très bon niveau ou chefs-d'œuvre. Comme si on pense aux films de Fellini ou Visconti, Pasolini. Plusieurs de ces films-là sont des chefs-d'œuvre.
Eh bien, moi, je crois... ça me fait penser à la créativité puis la frontière de celle-ci. Qu'on soit écrivain, et puis peut-être que même si nos titres ne sont pas des best-sellers, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne chose à faire d'écrire et puis de produire des choses. On regrette souvent plus qu'est-ce qu'on n'a pas fait que qu'est-ce qu'on a fait. Hein? Donc, dans ce sens-là, c'est quelque chose à tenir en tête. Et puis aussi, certains qui sont beaucoup plus éveillés, ben, l'éveil, c'est pas vraiment la mode. Hein? On est à la mode. C'est pas... Quand on devient conscient, on voit qu'il y a vraiment il y a des choses vraiment qui ne devraient pas être là, puis il y a des choses qui dominent notre société qui ne devraient pas être là non plus. Je veux dire, des corruptions politiques, doit-on les nommer, tous les chambardements, puis les... Tu sais, on n'est pas dans un monde où ce que le gouvernement veut le bien-être de sa population en général, hein? Faut l'admettre, c'est pas l'intention d'un gouvernement. Le gouvernement, c'est le contrôle mental des gens pour les diriger dans des directions qu'on veut. Donc, avec des agendas précis. Donc, à travers tout ça, cette supercherie, cet écran de fumée avec lequel on doit composer, certains d'entre nous tiennent bon à connaître leur... Et puis, avec émerveillement, voient cette vie qui est extraordinaire et puis incroyable. Incroyable pour la folie furieuse. Incroyable aussi pour le potentiel de sa beauté.
C'est de plus en plus dur, ça, quand on vieillit. Quand on est jeune, on n'a rien à perdre. C'est facile de clamer qu'on est artiste et qu'on veut être artiste. Et soudain, y arrivent les responsabilités, des fois les enfants, les dettes, etc. Mmh. Et c'est là que la personne va souvent abandonner. Moi, j'ai rencontré un musicien qui me disait, en général, les gens abandonnent vers 30 ans. Parce que lui, il avait travaillé au-dessus du soleil. Parce que jusqu'avant 30 ans, aucune responsabilité. Et soudain, oh, les enfants, quelque chose. Alors, les gens abandonnaient leur rêve d'être artiste, d'être musicien en ce sens-là, ou artiste de la scène dans le cirque, ce qui est très, très difficile, je l'avoue. Tu sais, c'est sûr que c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut quand même se donner une direction, parce que si tu le fais pas, c'est là que t'es perdu. C'est un peu comme moi, je me sens comme un train sur un rail. Je vais directement dans la direction que je me suis donnée quand j'avais 10 ans. J'ai jamais changé de direction. Bien, on va faire une pause avec la chronique du Gai Savoir de Jacques Couture. Puis nous allons revenir avec ce thème, croire à son option et s'y maintenir.
Bonjour, il me fait plaisir de vous retrouver pour ma deuxième chronique portant sur l'art d'être bien avec soi et les autres. Un premier point auquel je vous invite consiste à vous regarder dans le miroir et à vous séduire vous-même tel un adolescent qui découvre son corps par tous les stratagèmes possibles. Ensuite, il y a de regarder et contempler les autres, de ressentir en soi l'effet qu'ils nous procurent. Lorsque nous sommes nus ou lorsque nous regardons la nudité, nous sommes à même de percevoir la vérité. Il y a une manifestation concrète de notre identité profonde. Nous ne pouvons pas nous cacher en étant dans notre plus simple appareil, mais nous pourrions plutôt dire, sous nos jours les plus élaborés et vastes, car c'est soi-même dans notre unicité et intégrité. Mais vous me direz, quels sont les moyens d'y arriver? Plusieurs options, dont se rendre dans un centre sportif, aller sur une plage, fréquenter des lieux naturistes. Pourquoi ne pas se comparer? Oui, les standards de beauté peuvent déranger ou choquer, et alors? Moi, je peux les trouver hyper stimulants, mais la beauté se présente sous plusieurs facettes. De même, j'aime beaucoup aussi la diversité des corps. Je vous invite aussi à vous bénir et à aimer votre corps, d'avoir le goût de l'exhiber lorsque cela se présente. De même, prenez soin de vous, ayez une alimentation saine, faites d'activité physique, recevez et donnez des massages, caressez-vous, vous pouvez vous masturber quand vous le souhaitez, votre libido sera votre guide. En effet, il s'agit de se dire oui, totalement et en toutes circonstances, pour être bien avec soi et les autres. La vue de beau corps nous amène à voir la vie avec douceur, de ne pas vivre sa vie en se préoccupant sans cesse. Oui, cela nous détend. Si vous êtes bien dans votre corps, vous le deviendrez assurément dans votre esprit, sur un principe de base communicante. Dans tout ce processus d'harmonisation de soi et des autres, j'aime l'état de communion lors de rencontres charnelles. Veuillez ne pas manquer de célébrer votre amoureux ou amoureuse. Veuillez bien les faire jouir. Quel sentiment d'absolu, soit d'être indissocié de toute chose, l'autre et nous, sous une autre forme. En terminant, un rappel. Je vous invite à avoir de l'indulgence envers les autres. Les gens avec l'obésité peuvent être fort beaux. Tous les goûts sont dans la nature. Je n'aime pas le rejet. Il n'y a pas si longtemps, je rejetais plutôt que d'accueillir. Maintenant, j'ai de l'ouverture et je vais à la rencontre d'autrui et en me laissant séduire. Pour illustrer mon propos, je vous recommande impérativement de visionner la vidéo d'un Danois sur Vimeo dont le titre est « One of those days, self-discovery number one ». Le nom du cinéaste qui est le personnage, là, c'est lui-même que l'on voit dans la vidéo, s'appelle Uffe Jacobsen. Dans cette vidéo, le jeune homme est nu, il découvre son corps, il va même jusqu'à jouer avec son prépuce et faire tourner son pénis comme un ventilateur. Je placerai le lien sur le site web de ma chronique sur le site proposesurlebonheur.com. Ainsi, d'ici ma prochaine chronique, vous pouvez mettre en pratique mes recommandations. Au plaisir! À la prochaine!
Toujours à propos sur le bonheur, notre thème aujourd'hui est « Croire à son option et s'y maintenir ». Un très bon exemple que j'aimerais donner, c'est Socrate. Ceux qui ont lu la vie de Socrate et surtout le procès de Socrate, ils vont comprendre très bien ce que je veux dire présentement. On l'a accusé de corrompre la jeunesse et lui, il a gardé sa ligne directrice tout le long du procès. Il a continué à être lui-même. Il a affirmé qu'il allait débattre comme lui-même le fait et non comme un sophiste. Et il s'est fait accuser, il s'est fait tuer. Et juste avant de mourir, Criton essayait encore de le faire changer d'avis. Il lui disait « j'ai de l'argent ou des gens qui pourraient me donner de l'argent ». On pourrait te prendre, te faire sortir de la ville en cachette et puis blablabla. Bla bla. Et Socrate, qui lui écoutait son démon, sa petite voix qui lui disait « non, fais pas ça ». Parce que ça allait, c'était comme si, comme il le disait lui-même, c'était comme si toute sa vie il avait prêché quelque chose et là il allait faire le contraire juste parce qu'il avait peur de mourir. Donc il s'est maintenu, il a cru à son option et on parle encore de lui aujourd'hui. Et sinon, ça, on n'aurait pas parlé de lui autant. Il se serait lui-même tiré dans le pied. Il aurait montré qu'il n'était pas vrai. Et bon, c'est ça que je veux dire. Croire à son option, c'est d'y croire coûte que coûte, de ne pas avoir peur de rien perdre ou de mourir ou de peu importe.
Tu sais. Oui, on dirait qu'il y a comme une histoire, un parallèle d'idée de martyr, un peu comme avec Jésus-Christ. Dans cette histoire-là, je ne savais pas que Socrate avait vécu quelque chose un peu de similaire, si on veut, comme en tant que, comme s'il était un prophète de son époque. C'était vraiment beaucoup plus ancien, à une toute autre époque que l'époque d'il y a 2000 ans de Jésus-Christ. Hein. Donc, moi, ça m'étonne d'entendre ça, mais je pense qu'il faut être pleinement soi-même puis de pas avoir de compromis par peur, mais de là à être... se sacrifier, c'est un autre point.
Ben, je pense que c'est ça. Pour qu'est-ce qui est de Socrate, je dois conclure qu'il était clair sur sa nature éternelle au point où que, il savait qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Que, ben, je peux pas m'imaginer c'était quoi exactement son sentiment du moment exact. Mais pour que tu aies de l'avant, que tu renonces à des options d'évasion ou de chemin alternatif qui maintiendrait sa vie, physique, et puis dire non, je vais aller jusqu'au bout, quitte à avoir, je crois que c'est une boisson empoisonnée qu'il fallait qu'il prenne
ouais,
la ciguë, pour terminer sa vie. Et puis d'y aller de l'avant avec ça, ben, ça montre que sa clarté, sa position dans l'éternité était déjà établie. Donc, il a gardé son point et puis il est sûrement bien.
Est-ce qu'on peut dire, on peut comparer aux immortels le pseudonyme qui est donné aux gens de l'Académie française, comme nouvellement là, Danny Laferrière en fait partie. Là. Il me semble que c'est ce terme-là, si je ne me trompe pas. Là.
Ben, d'ailleurs, il enseignait l'immortalité d'une certaine manière, Socrate. Mais... dans l'histoire, il y a beaucoup de gens comme ça, mais on les juge des fois bons, mauvais. On peut parler de Hitler aussi. Hitler a écrit Mein Kampf, qui est un livre qui s'appelle Mon projet. Il l'a écrit en 1924, alors qu'il était tout jeune, dans lequel il annonçait exactement tout ce qu'il allait faire jusqu'en 1945, où il s'est suicidé. Et les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Mais si on regarde, si on lit ce livre, on se rend compte qu'il l'avait dès sa jeunesse. Déjà donné une direction claire à sa vie et il a tout fait. Il n'a jamais renoncé non plus. Il n'a jamais mis le genou à terre. Il a refusé de céder. Il a préféré se suicider que de se céder ou de passer dans les mains de l'ennemi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait fait.
Mais il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur Hitler. Et puis, si on pense aussi à son enfance, il n'y a pas eu une enfance facile. Alors, si on va aller dans la psychanalyse, on peut croire que c'est un homme qui a été traité très, très maltraité. Et il y a des grands spécialistes de la psychanalyse qui ont pensé que ça venait de là, toute cette histoire. Et aussi, on a parlé de maladies mentales, on a parlé de tout ça. Alors, on ne sait pas, hein? On se pose mille et une questions sur son... Mais c'est à se demander qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme.
Pas difficile. Il y a des livres qui ont été écrits. Il a donné des entrevues. Il y a un livre qui s'appelle « Hitler maudit » qui a été... C'est des entrevues qui ont été faites à 3 ans à peu près avant qu'il meure. Donc, c'est quand même possible de voir qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Et moi, je pense qu'on avait affaire à un visionnaire, mais qui a perdu... tous les gens autour de lui n'avaient pas nécessairement les bonnes intentions et n'avaient pas la vision telle qu'il avait. Donc, à un moment donné, il a perdu le contact avec le sol, avec les gens autour de lui qui étaient oui. Des criminels.
Ou il a perdu contact avec la réalité. Il y en a qui ont pensé ça aussi.
Oui, mais de toute façon, si on revient au point, c'est-à-dire que lui, il n'a jamais flanché. Il a suivi sa direction jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est important pour moi. On peut le juger comme bien ou mal, mais ceux qui le font n'ont rien compris.
Oui, mais
le bien et le mal, il y a juste ce qui est. C'est ce qui devait se passer.
Mais c'est ça que je voudrais faire un point. Quand on le décrit en ce moment, on semble donner beaucoup de valeur à une ligne directrice qui ne change pas.
C'est ça.
Je ne suis pas d'accord dans le sens où ce que la ligne directrice, on la définit par la nature du travail qu'on va faire. Autrement dit, la job, la spécialité, la poursuite de tout ça. C'est correct d'être clair sur qu'on veut faire une activité ou une autre. Mais pour moi, c'est pas ce que tu fais qui compte. C'est pas le type de travail que tu vas faire qui compte. C'est vraiment garder ton intégrité avec qu'est-ce que tu sais que tu es. Qu'est-ce que tu es. Donc, la nature de ton être, c'est ça vraiment. Fait que peu importe si ton être t'amène à laver des planchers un soir, puis jouer de la musique l'autre soir, puis faire un job un autre moment, c'est pas vraiment aussi important que d'être authentique dans la mesure où ce que tu n'oublies pas ton héritage, tu n'oublies pas qui tu es, et que tu fais ce que tu veux, c'est pas aussi... C'est plus plaisant si tu fais quelque chose que tu aimes tout le temps, on s'entend, et puis c'est bon d'aller dans cette direction-là. C'est correct. C'est d'ailleurs préférable. Mais c'est pas aussi critique que d'être intègre avec ta vraie nature, avec qu'est-ce que t'es vraiment.
Ça, moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient été déviées par leur père. Dans le sens que j'en ai rencontré tellement qui voulaient être danseuses ou quelque chose de très féminin. Et là, le père, hyper rationnel, disait non, va-t'en en informatique ou comme avocate aussi. Et puis, celles qui ont écouté, ils se ramassent justement loin de leurs options. Ils sont pas dans un lieu de pouvoir. Ça peut très bien fonctionner en surface, mais qu'est-ce que ça va être à 50 ans, 60 ans, 70 ans? Quand il te reste moins en avant qu'en arrière, tu te dis, j'aurais donc dû... Et moi, je peux pas dire ça, parce que quand je suis arrivé ici à Montréal à 24 ans, j'ai comme un signal d'alerte qui m'a dit là, bzz, 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 c'est le temps de choisir ton option, puis de dire non, merci à tout le monde, parce que je sentais que si je choisissais pas, j'allais jamais pouvoir être libre. Et donc, quand je suis arrivé, j'avais rien à perdre, j'ai dit non, moi je ne travaille pas, je ne vais pas travailler, foutez-moi la paix, je veux être un artiste. Et j'en ai fait de la bande dessinée, je te jure, j'ai dessiné comme un malade, je dessinais à tous les jours, je remplissais un cartable par mois, rempli de croquis, puis j'arrivais chez nous, je faisais de la peinture, de la bande dessinée, et je me suis contenté jusqu'à l'âge de 32 ans, où là, j'ai dit, OK, je pourrais commencer à intégrer le marché du travail, j'ai assez d'expérience pour ne pas perdre ma voix, même si, quand tantôt je disais que ça ne fonctionne pas dans le sens... mon œuvre ne fonctionne pas dans le sens qu'elle ne me fait pas vivre présentement. Je ne peux pas gagner de l'argent en vendant mes livres. Donc, je suis obligé de faire quelque chose en parallèle. Mais ce quelque chose que je fais est tellement proche que je ne me sens pas dévié. C'est pas comme si je faisais justement du ménage ou quelque chose d'autre ou qui me dirait non. Qu'est-ce que je fais là? Je me suis oublié.
Nicolas, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont respecté, qui ont respecté qui tu étais. Et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Quand on dit casser le caractère, on a respecté qui tu étais. Tu avais probablement beaucoup de caractère aussi pour affirmer qui tu voulais, puis de ne pas faire ce que papa, maman voulaient que tu fasses. Mais je pense que les parents aussi ont respecté qui tu étais, et c'est peut-être pour ça aussi que tu es ce que tu es aujourd'hui.
Oui, alors, mais moi, j'ai choisi mes parents. J'ai choisi le contexte dans lequel j'ai grandi. Donc, on peut dire que les parents nous forgent, là, mais je ne suis pas né à mes parents. Je ne suis pas né de mes parents, je suis né à mes parents. Donc, moi, je le renverse parce que il y a une part de responsabilité qui est... La majeure part de responsabilité te revient à toi. Tu peux avoir même un parent qui va te dire non. Et puis, il y en a qui vont dire, je vais faire le contraire.
Oui, c'est vrai.
Moi, dans le contexte de cette émission, là, je prends à découvrir que j'ai une ligne directrice que j'imaginais pas vraiment avant de me pencher comme aujourd'hui sur le sujet. C'est l'étude, en fin de compte, de l'existence humaine, de l'être et tout, de l'être humain dans toutes ses dimensions, des études en sciences sociales d'une part, mais une tendance d'aimer découvrir les gens dans tout ce qu'ils sont depuis que je suis tout petit. C'est sûr que ça va aussi dans un point précis en lien avec l'alimentation. Depuis que j'ai l'âge de 5 ans, j'ai toujours regardé la liste, la description des ingrédients sur les aliments que je consomme. Ça m'a toujours captivé puis ça m'anime beaucoup encore. Donc, donc à la fois l'aliment, ce que l'on mange, ce que l'on est, notre corps et les corps m'animent beaucoup.
Et nous allons passer à une pause musicale avec une chanson de France d'Amour qui s'appelle « Le bonheur te fait de l'œil ». Et nous allons revenir après avec ce thème « Croire à son option et s'y maintenir ».
N'ont pas de veine. T'aimes pas ta face, tu trouves pas drôle, mais t'as une tête sur les épaules. Oh oh. Tu parles pas tellement tes poignets, vaut mieux être seul que mal aimé. Regarde autour de toi, les signes qu'il t'envoie. Que président Bush. T'as rien à boire, rien à manger. Y'en a qui mangent rien que des volets. Hey, hey. Tu surlumeurs, t'as plus de patience. T'es stressé d'être en vacances. Regarde autour de toi, les signes qui t'envoient.
Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Croire à son option et s'y maintenir ». Une autre personnalité connue dans l'histoire qui n'a pas fait l'unanimité à l'époque, c'est Freud. Et à un certain point, il faisait brûler ses... Les gens ont brûlé ses livres. Il disait à ce moment-là, il dit « Je suis très chanceux de vivre à une époque où on brûle mes livres parce qu'à une autre époque, c'est moi qu'on aurait brûlé ». Mais malgré tout, il s'est maintenu parce que ça a choqué sa théorie des enfants qui ont des goûts de sexualité déjà dès l'enfance. Ça choquait complètement l'establishment. Mais aujourd'hui, c'est une référence. Je suis pas en train de dire s'il a raison ou il a tort. Pour moi, ça m'importe peu parce que c'est pas vraiment une question d'avoir raison. Hein. Je pense que quelqu'un peut avoir raison contre un million. Et dans l'histoire de l'humanité... Ça s'est souvent répété, des grands philosophes, des grands penseurs, des gens ont affirmé des choses. On peut penser à Nicolas Copernic, on sait, qui a affirmé que le soleil était le centre de l'univers. Bon, on sait maintenant que ce n'est pas vrai, mais il était déjà plus vrai que croire que la Terre était le centre de l'univers. Et je veux dire, il s'est maintenu, et ça a dû être très dangereux pour lui à cette époque-là. C'est encore très dangereux aujourd'hui de dire la vérité. Certains croient qu'on peut tout dire aujourd'hui, mais il y a quand même l'appareil manipulateur plutocratique, les hommes gris qui vérifient, et puis le profilage. Maintenant, avec on peut te retracer n'importe où, donc fais attention à ce que tu dis, etc.
Moi, je crois à dire dans la mesure du possible, il appelle ça en anglais « speak truth to power », ce qui veut dire d'exprimer la vérité sans égard à qui l'écoute. Et dans ce sens-là, c'est un devoir de le faire. Les gens qui contrôlent feront bien ce qu'ils font, mais je crois que c'est important, dans la mesure du possible, de le faire. Puis c'est pas juste nécessairement dans une plateforme de radio, là. Ça peut être aussi... quand on marche sur la rue, ça peut être aussi quand on voit un abus. Tu vois un parent frapper son enfant. Tu dois intervenir des fois et dire, c'est pas OK, arrête. Tu dois des fois le faire. Et dans ce sens-là, l'exprimer. Maintenant, ta vie ne t'amène pas nécessairement à avoir des conflits, dépendant de ce que tu magnétises dans ta vie, bien sûr. Là. Mais il y a assez, à grande échelle, des causes qui ont besoin d'être exprimées, des injustices, des débalancements, de la corruption. Bref, le système qu'on a en ce moment, il est tout à refaire.
Oui, mais l'authenticité, c'est aussi ça. Hein? C'est... savoir exprimer ce que l'on pense profondément. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de place pour ça parce qu'il faut être politically correct. Mais moi, je pense qu'on fait avancer les choses en disant les vraies affaires, en parlant des vraies affaires. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et parce qu'il y a de la place pour de la controversion, et puis c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. Si tout le monde est d'accord, bien, c'est bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est heureux, puis, hein, en apportant sa petite couleur, son petit grain de sel, en s'affirmant, en disant ce que l'on pense vraiment, eh bien, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses, et puis, c'est comme ça aussi qu'on exprime sa vérité et ça vient aussi rejoindre le fait de tenir à son option. Là, la phrase était « croire en son option et de s'y maintenir, de s'y tenir ». Ça rejoint ça aussi. Je pense que si on est authentique, si on est vrai, eh bien, puis on va dans notre sens droit, eh bien, ça fait toute partie de l'authenticité, puis de vouloir être transparent aussi. La transparence, c'est important aussi.
Oui.
Sinon, ça donne quoi, là, d'être... ça donne quoi de communiquer? C'est pas de la communication à ce moment-là, là. C'est faux.
Mais Michel, aussi, j'irai en ton sens, puisque moi, je me sens particulièrement interpellé d'être pleinement moi-même, puisque, évidemment, en tant que gay, je pense que je suis ravi de vivre à cette époque-ci. Hein. On parle d'authenticité, de comment on mène sa vie. Je pense que cela a été bien difficile. J'ai connu quand même beaucoup de gens, puis tout le monde le sait, hein, au Québec, comment c'était dans les années 60, 70, les années 50. C'est rare ceux qui pouvaient vivre pleinement leur vie avec un partenaire de même sexe. En tout cas, de façon ouverte, c'était vraiment caché ceux qui le faisaient. Mais ce qu'il y a eu aussi, beaucoup des gens que je connais qui sont gays et qui vivent pleinement leur vie aujourd'hui, plusieurs ont été dans le sens du conformisme, se sont mariés, même si c'était pas les femmes qui les attiraient au premier plan, ils suivaient le courant, c'était l'attente qu'on avait d'eux, c'était de se marier, d'avoir des enfants. Donc plusieurs ont pas pu échapper à ça. Quel type de réalité que cela a donné pour eux, pour la conjointe, pour les enfants et tout ça, là, c'est plein de vies perdues, sans doute, ou des vies difficiles. C'était pas des vies qui étaient propices au bonheur, j'imagine. Mais plusieurs ont quand même réussi. J'en ai un ami près de moi qui est dans la cinquantaine. Et lui, je pense qu'il a vécu harmonieusement parce que il me dit, moi, il a fallu que je sois un peu plus âgé, peut-être dans 40, 50 ans, pour découvrir ma préférence. On a chacun notre style à ce niveau-là. Moi, ma préférence, je la connais depuis l'âge de 7-8 ans. La première fois que j'ai vu un homme nu, à peu près, ça correspond. Puis cela a toujours été ainsi que je me suis défini, c'est ce qui m'anime au premier plan, là. Et je sais que cette option-là va durer toujours, hein? J'en suis sûr.
Plus on commence jeune,
je peux vous le garantir.
Plus on commence jeune, plus c'est facile.
Oui.
Ça, c'est évident parce qu'on se donne une direction à notre vie. Et c'est quand on change après que ça devient difficile.
Moi, mais je pense que c'est de nier, on a nié qui on était. Parce que
tu l'as peut-être fait, mais tu peux
je
pas
pense
dire,
que je nie à ce moment-là. Je pense que quand je viens au monde puis que j'ai une orientation, en tout cas, moi, je crois pas que
mon orientation...
moi, je crois pas qu'à 50 ans, je deviens homosexuel. Je pense que j'ai plus nié qui j'étais. On est ou on n'est pas, je veux dire, on est attiré dès qu'on ressent la sexualité. On sait vers qui on est attiré. Moi, je pense que
la
sexualité commence, comme
pas...
Freud le disait, la sexualité, on la ressent quand on
mais
est très jeune.
Il dit en même temps qu'on est des pervers polymorphes, qu'on serait un peu à tout le monde aussi. C'est intéressant, ce point de vue-là.
Mais beaucoup de gens veulent faire plaisir aux autres. Et ces gens, par exemple, dont tu parles, Jacques, ils ont fait un compromis. Mm-hmm. Et un compromis, à mon avis, c'est un peu comme une carie qui n'est pas traitée. C'est, avec le temps, ça ne se répare pas toute seule.
Il n'a pas suivi son option.
Tu peux faire semblant de ne pas la savoir, mais on la sait toujours, notre option.
Mais
moi,
oui.
Des gens perdus, j'en ai déjà rencontré, puis quand ils me posent la question, je dis toujours, qu'est-ce que tu aimais faire vers l'âge de 3-4 ans? Avant que tu commences à aller à l'école, avant que tu commences à te faire programmer vraiment par la société, etc. Et c'est souvent clair, la personne va dire, ah, j'aimais danser, j'aimais lire, j'aimais ci, j'aimais ça. Moi, j'aimais faire du dessin. Et là, on commence à te programmer, le système est là pour te laver le cerveau, les parents vont dans ce sens-là, et là, l'église, etc. Et à un certain point, la personne s'oublie. Mm-hmm. Moi, dans mon cas, j'étais très chanceux parce que j'avais comme des mécanismes, j'ai arrêté de parler quand j'avais 4 ans, donc je me suis comme refermé, j'ai dit non, vous n'allez pas briser cette pureté. C'était pas conscient à ce moment-là. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment un mouvement super efficace. J'ai dit non, merci, je ne participerai pas. Vous pouvez me mettre dans l'école parce que j'ai pas le choix d'y aller, mais je ne suis pas là. Je ne parlais pas à mes petits amis, j'avais pas de compagnons parce que je parlais à mes parents, c'est tout. Et j'ai commencé à parler à 12 ans quand j'étais prêt, quand j'ai changé d'école. Et là, il me semblait que je commençais à pouvoir être plus moi-même. Mais j'avais déjà trouvé ma passion à l'âge de 10 ans. Et j'ai commencé à parler vers l'âge de 12 ans. Donc moi, je ne me suis jamais oublié. J'ai toujours pensé à moi en premier. Au début, un peu maladroitement, un peu inconsciemment. Mais après, de plus en plus consciemment, jusqu'à quand j'ai eu 24 ans, où j'ai dit non. C'était un choix conscient de dire non, je ne veux pas travailler parce qu'il y a des conséquences. Il y a eu des grosses conséquences à ça. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu, pour ma famille, j'étais un perdant. Je n'étais rien. Et puis j'étais au crochet de la société alors que je faisais ce que je devais faire.
Oui, et puis je pense que ça se remarque beaucoup, les gens qui suivent leur voix. Juste avant l'émission, j'ai rencontré un musicien qui affichait sur un tableau, sur un babillard, un spectacle qui va avoir lieu bientôt, là, dans une semaine ou deux. Puis moi, j'ai trouvé incroyable son magnétisme. Les gens qui suivent leur voix, lui, c'était la musique, il est guitariste, bassiste, quelque chose comme ça. Et incroyable comment il rayonnait, comment il était joyeux, comment il aimait, il est venu demander l'autorisation à la station de radio pour afficher le spectacle, pour le publiciser, le faire connaître. Donc, toute une suite d'éléments. Donc, il s'écoute, il se consacre à ce qu'il aime le plus dans la vie, la musique et tout. Il vient nous le partager. Il veut connaître des gens en même temps, des gens qui vont apprécier connaître sa musique, le connaître à travers sa musique. Alors moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense qu'il faut... Je m'intéresse de plus en plus à aller vers les gens, justement, avec cette optique-là, pour pouvoir me permettre de mieux les connaître à travers ce qu'ils font et ce qui les anime.
Faut pouvoir aussi vivre son insécurité financière, parce que l'artiste, hein, je parlais avec mon fils hier, j'étais en train de manger avec lui, puis il étudie en cinéma, et puis il dit, mais maman, je veux aller à l'université, je veux faire mon bac en cinéma, tout ça. J'ai dit, moi, mon insécurité de mère, je me disais, mais est-ce que t'es sûre, t'aimerais pas mieux faire quelque chose qui va vraiment t'assurer un bon salaire, même moi qui, et puis, puis il me dit, « Mom, je n'ai parlé avec mon prof, il m'encourage, c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie, j'adore ça, je veux écrire, maman, puis tout ça. » Mais je trouve ça formidable.
Ben justement, on va aller à une chanson de Audrey Montigny. Ton fils aurait pu dire ça, c'est le titre de la chanson, « Prends-moi comme je suis ». Puis nous allons revenir après avec ce thème, « Croire à son option et s'y maintenir ». Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Croire à son option et s'y maintenir ». Il faut savoir détecter en soi des lignes de direction, des lignes de force. Et moi, j'aime bien le mot en anglais qui dit « follow your bliss ». Suis ce que t'aimes, ou ce qui te fait jouir. Pour moi, la jouissance, c'était de faire de la bande dessinée. Et je me rappelle très bien que de multiples fois, j'ai laissé mes amis en plein après-midi, en été, ils étaient autour d'une piscine à se faire du fun. Et moi, je partais, j'allais chez moi faire de la bande dessinée dans ma chambre. Parce que c'est ce que j'aimais le plus. Bon, j'ai payé le prix, j'ai eu moins d'amis dans ma vie. Je suis quelqu'un de très solitaire. Mais en même temps, à mon âge, maintenant, j'ai une œuvre. J'ai une douzaine d'albums de bande dessinée, 5-6 livres de textes d'écrits, j'ai fait des spectacles, j'ai exploré énormément mon œuvre et je suis très, très content à mon âge d'avoir cette direction. Et c'est ça la magie, c'est qu'une fois, quand tu restes sur ta voie, ça devient de plus en plus facile.
Je pense que c'est important aussi de mentionner quand tu as un environnement qui te permet l'expression aussi. Et souvent, on n'a pas ça, parce qu'on est dans un environnement où ce que l'ignorance abonde et les préjugés abondent et tous ces filtres qui nous séparent abondent. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai partagé, une pensée qui... j'ai entendu ça, si je me souviens bien, c'était de Neil Donald Walsh. Et je vais paraphraser un peu, mais que ce soit dans le cas de relations entre personnes de différents âges ou du même sexe ou que ce soit quoi que ce soit, dans un sens très large, il avait dit qu'il n'y a pas de mauvaise manière ou de forme, il n'y a pas de mauvaise forme ou de mauvaise manière pour exprimer un amour sincère. Pensez à ça et laissez être. Et en espérant que on trouvera la ligne de force en question que tu parles, Nicolas.
Il ne faut pas espérer. Je pense que c'est une question de volonté et non d'espoir. C'est de dire, puis si on a des enfants, si ceux qui ont des enfants, mais aidez-les à trouver leur direction à eux, pas la vôtre, pas la vôtre par...
Par procuration.
Par peur.
Et je veux dire, ouais. Moi, tu vois, je ne l'ai pas senti. Mes parents n'ont jamais compris vraiment pourquoi je voulais être artiste. Mais en même temps, ils ne m'ont pas non plus barré les portes. Ils ne m'ont pas barré. Tout, ils ont toujours été très compréhensifs. Mais on en revient au fait que tu choisis tes parents. Chaque personne a choisi l'univers dans lequel il grandit. Donc, s'il y a de la violence à la maison, c'est quelque chose qui était choisi avant d'arriver. C'est peut-être difficile de comprendre pourquoi on a choisi quelqu'un qui nous bat, qui nous viole, etc. Mais il faut voir qu'il y a une continuité. Peut-être que le fait de se faire battre, la personne va développer une plus grande sensibilité. Il va développer quelque chose, peut-être plus d'altruisme. On ne sait jamais. T'sais. Moi, je me sens très détaché parce que moi, j'ai grandi dans un univers très où je manquais de rien, où j'avais beaucoup d'amour. Donc, je suis très détaché des problèmes généraux de la planète. Je les regarde en tant qu'observateur. Alors que quelqu'un qui a vécu la souffrance, la violence est peut-être plus sensible à ces choses-là et c'est peut-être sa fonction de venir aider parce qu'il sait de quoi il parle. Il faut se servir de ce qui nous est arrivé pour générer ce vecteur parce que ce vecteur, si on ne l'a pas, si on est toujours comme une girouette, et c'est vraiment un danger quand tu arrives à 50, 60 ans parce que tu es perdu. Et j'en ai rencontré des gens perdus comme ça puis je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je veux dire, si toute ta vie tu as nié qui tu étais vraiment, à 60 ans, c'est peut-être un peu tard pour commencer.
Tu me fais beaucoup réfléchir avec ce que tu apportes, Nicolas, en pensant au contexte familial, justement, comment le tout se passe, comment les gens sont chez soi, les réflexes, les manières de se comporter. Je te dirais donc en lien avec comment la constance, d'une part, avec l'organisation du temps. Moi, c'est toujours une chose que j'ai toujours eu de difficulté depuis que je suis petit. Donc, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont intéressé et trouvé difficile d'accomplir tout ce qui m'anime, tout ce que j'aime, d'une part. Mais tu parlais de faire la girouette, de savoir exactement ce que l'on veut. C'est sûr que souvent, c'est associé à l'adolescence, début de l'âge adulte. Moi, c'était comme ça que je l'ai vécu. Là. J'ai jamais réussi à décider au juste, par exemple, parce que le système est fait comme ça. Hein. Choisissons un programme dans lequel on va étudier au cégep, à l'université ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je pense que les gens autour de moi, si je pense à ma mère, ma sœur et tout, mon père, peut-être qu'il manquait peut-être d'organisation, de discipline. Il y avait une manière, un contexte familial qui n'était pas propice à s'investir en continuité à quelque chose, même si j'ai eu beaucoup d'appui pour poursuivre mes études. Mais moi, en tout cas, ce que j'apprécie depuis cette nouvelle année, depuis le début 2015, donc, c'est de commencer à mettre en pratique, à m'investir. D'une part, je participe de plus en plus à cette émission de radio, je participe à une chronique, puis ça me fait un effet d'entraînement. C'est pas une sorte de paresse, mais j'ai toujours manqué un peu de rigueur. J'aime écrire, mais je me lasse rapidement. Donc, mais en ayant quelque chose comme qui est pas trop demandant au premier abord, une chronique une fois par mois, ben je découvre un plaisir d'écrire, de rédiger. Ça se fait dans la facilité. Donc, je me garde là, je découvre cette lancée au fil des semaines et j'apprécie beaucoup cette constance que cela m'amène et que je porte maintenant en moi.
Tant qu'à moi, j'ai rapidement su, très jeune, que je voulais devenir comédienne. Parce que, ben, tout d'abord, j'ai été choisie dans toutes les chorales, j'étais choisie dans toutes les pièces de théâtre, j'étais choisie dans tout ce qui était scène, j'étais là. Quand j'avais des amis qui venaient à la maison, je faisais des pièces de théâtre avec mes amis. Après ça, j'ai commencé à faire des concours amateurs. Après ça, j'ai été choisie aussi pour du théâtre qui était semi-professionnel, semi-amateur dans ma région. Donc, après ça, j'ai continué les concours amateurs, tout ça. Et puis, j'ai fait un DEC à l'école en théâtre, mais ça s'appelait DEC en élocution française. Donc, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Et puis, là, quand j'ai commencé à avoir mes enfants, ben j'ai continué quand même à faire des auditions, puis j'ai continué aussi à faire de la figuration. Mais j'ai arrêté pendant une quinzaine d'années là pour les enfants. Mais c'est vrai qu'on devient perdu quand on a lâché un peu là le fil, tu sais, de l'option là, que puis qu'on a négligé ça là, son être, sa passion. Oui, j'avoue, je suis dans cette période-là d'un peu perdue. Mais je sais pourquoi, par exemple. C'est ça qui est important. Je sais pourquoi je suis comme ça. Et il me reste qu'à me rebrancher sur ma passion, puis et je sais ce que j'ai à faire.
Mais la société, elle est créée comme ça. Elle est créée pour que les gens s'oublient. Je veux dire, ce que tu as fait, des millions de femmes le font, et souvent même les hommes aussi. L'homme va se dire, bon, et là, maintenant, je dois travailler, je dois amener de l'argent au foyer, donc là, je vais oublier ce que je voulais vraiment faire, je vais aller chercher un job plus stable. Et ça, c'est le grand danger. Mais ça, c'est l'oubli de soi qui est enseigné depuis des milliers d'années. C'est
judéo-chrétien.
S'oublier pour un Dieu supérieur, s'oublier devant l'État. Hein. Les gens croient à la politique. Aujourd'hui, ils vont voter, ils croient qu'il se passe vraiment quelque chose, alors que c'est une abdication. C'est une illusion, parce que finalement, même si on vote, ça ne change absolument rien. Et ces gens-là ont déjà décidé. C'est décidé par en haut. Mais les gens continuent d'y croire et ils vivent dans cette illusion. Et j'aime toujours cet exemple de la Matrice, de Matrix, le film, qui est tellement une belle image de la société aujourd'hui, comment ça se passe réellement. C'est sûr que c'est romancé, là, c'est un film, mais le programme, l'idée qu'on vit dans un programme, et c'est vraiment pas très loin de la réalité. Et quand quelqu'un cherche à s'éveiller comme Néo, eh bien, il y a tout le système contre lui, et c'est difficile. Mais en même temps, s'il est l'élu, s'il est vraiment il va y avoir des amis, il va y avoir les amis de ton naissance.
Et des habiletés.
Des habiletés, des synchronicités. Mm-hmm. Il va y avoir de la magie, du miracle. Et moi, c'est sur ça que je compte, sur le miracle. Quand tu es sur ta voie, il y a des miracles. Tu rencontres la bonne personne au bon moment, tu arrives juste au bon endroit. Oui, 5 minutes avant, il aurait été trop tard. Je veux dire, c'est très, très important. Et c'est là qu'on est, moi, je dirais...
béni.
synchronisé. Le mot que je disais, c'est synchronisé. Quand tu es synchronisé avec ce que tu t'es donné à être avant même d'entrer dans ce monde, eh bien, les choses se font bien. Même si, par exemple, parfois je trouve ça difficile de ne pas avoir de reconnaissance du monde, j'ai une grande facilité à faire de l'art. J'écris de plus en plus facilement, mes idées sont de plus en plus claires. L'émission de radio m'apporte une grande jouissance parce que mes idées s'expriment d'une autre manière. Donc, il y a une facilité qui s'est développée dans mon art. Dans le monde, c'est quand même autre chose, mais au moins, en moi-même, c'est facile.
Il y a justement aussi tu parlais des familles, des gens qui s'investissent là-dedans. Puis tu sembles indiquer là, que c'est pas la meilleure voie, en tout cas pour se réaliser soi-même. Mais évidemment, je pense qu'il y a, sans doute, j'espère, je crois qu'il y a beaucoup d'exceptions de gens qui réussissent avoir une vie. Pour eux, les enfants, c'est tellement la chose, leur absolu, extraordinaire d'avoir une famille puis d'avoir de se perpétuer sans leur imposer qu'ils sont, mais découvrir comme soi-même sous une autre forme. Moi, je trouve ça serait extraordinaire. Moi, j'ai fait en quelque sorte un grand deuil. J'étais en vacances à Cuba, comme je l'ai parlé dans une autre émission, là. Et j'ai pleuré, encore une fois, avec un ami proche et tout. Je voyais des petits-enfants extraordinaires et tout. Je disais, ah, moi, j'aurais tellement aimé être père. C'est comme si une sorte de deuil, mais je suis très satisfait de ma vie. Mais en même temps, je trouve ça tellement extraordinaire des jeunes enfants, peut-être entre 0 et 10 ans. Et je me dis, je souhaite que des gens ont assez d'originalité, d'imagination pour permettre de pouvoir avoir une belle vie.
Ben, c'est sûr qu'il y a des exemples. Hein. On peut penser à Madonna. Madonna, elle a eu des enfants, puis elle a recommencé à faire des spectacles tout de suite après. Mais ça, c'est quelqu'un qui ne s'oublie pas. Donc, c'est pas obligatoire de s'oublier quand on a des enfants. Robert, peut-être le mot de la fin, si ça peut se résumer rapidement.
Ouais, rapidement. Il y a bien des gens qui cherchent toujours un livre de règles externes à eux autres, un livre qui va leur dire noir et blanc quoi faire puis quoi être. Et même, ils vont même favoriser un maître, même s'il est gentil, et obéir à ça. Essayez d'obéir à vous-même en premier.
Bien, nous allons vous laisser avec une chanson de William Deslauriers qui s'appelle « Recommencer tout à zéro ». Et je voudrais remercier le mouvement Jovialiste et Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce merveilleux projet. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous.
Bon week-end et bonne semaine.
Bonne semaine.
Visitez bonne semaine. propossurlebonheur.com pour écouter toutes nos émissions.
Excuse, mais faut que je prenne le bord. Je suis tanné, je suis perdu dans mon cauchemar. C'est pas parce que j'ai pas essayé, pourtant j'ai rien foiré. Mais tu me fais buzzer. Recommencer tout à zéro, comme le ferait de nouveaux tourtereaux. Recommencer à zéro, mais cette fois comme il faut. Je veux pas que tu prennes ça pour du cash, mais j'ai l'impression que nous deux ça clash. Dans le fond, je veux que tu saches, comme on était bien à s'aimer, ou bien non, je sais coller. L'important c'est d'avancer. Recommencer tout à zéro, comme le ferait de nouveaux tourtereaux. Recommencer à zéro, mais cette fois comme il faut. Je suis sûr que tu t'ennuies des riffs de guitare qu'on se jouait la nuit, ma baby. Recommencer tout à zéro, comme le ferait de nouveaux tourtereaux. Recommencer à zéro, mais cette fois comme il faut. Les cheveux dans le vent comme des enfants, on pourrait juste prendre le temps. Just prendre le temps, yeah. Just take your time. Bye, bye.